L'agneau de Dieu. Préparation numéro 52. Le 21 novembre 1999. Brian Kozurek. La préparation 53-1111-93 frères. Je me sens bien. Il faut que j'arrête. Je me réchauffais seulement jusque là. Ainsi, je crois que je pourrais prêcher maintenant un peu de temps. Je me prépare simplement maintenant. J'aimerais vous amener dans l'Apocalypse, l'agneau qui vient. Mais, je ferai cela une autre fois. Que Dieu vous bénisse. Le temps file si vite. Ce matin, j'aimerais examiner cette pensée ici que frère Branham n'a pas approfondie ici, et s'ester à l'agneau de Dieu comme on le voit dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, la première fois que nous voyons faire mention de l'agneau dans le livre d'Apocalypse, c'est Esther au 5e chapitre, quand les sceaux sont brisés. Mais, pour comprendre la scène qui a lieu au chapitre 5, nous devons d'abord revenir au chapitre 3, verset 20 et lire jusqu'au chapitre 5. Ouvrons nos Bibles et prenons le 3e chapitre et lisons maintenant jusqu'au 5e chapitre pour examiner cette scène et comprendre quand Esther ce que cela a lieu. Apocalypse 3, 20-22. Je veux que vous remarquiez que cette scène a lieu ici sur la terre. S'Esther le temps de la fin, Christ a été rejeté et l'Esther à l'extérieur de l'église, frappant. Jéhovah Jireh 1, 64-040-64. Il Esther ici maintenant. Il Esther. Nous y sommes, il y a quelques jours de cela, célébrant sa résurrection, de ce que Dieu l'a ressuscité. Nous avons témoigné. Nous chantons cela. Et il peut apparaître et faire quelque chose qu'il a fait, exactement comme il a fait avant sa résurrection. Nous l'appelons un diseur de bonne aventure, un démon, un Belzébul, nous excluons cela de l'Église. Pourquoi faisons-nous cela? Il doit accomplir l'Écriture selon laquelle dans l'âge de l'Odyssée, la parole, qui est Esther Christ, a été mise à l'extérieur, frappant à la porte, essayant d'obtenir la coopération de quelque part, pour entrer et se faire connaître. Maintenant, remarquez donc, nous voyons le chapitre 3 se termine avec Christ qui est rejeté et mis hors de l'Église. Maintenant, nous allons dans Apocalypse et continuons à lire au 4e chapitre. Apocalypse 4, 1-5. Maintenant, que sensit cet esprit de Dieu? Il est certain que Dieu est 1, pas 7. Or, souvenez-vous, que signifie le mot de sortir de? Donc, ce sont cet esprit qui avait leur source en Dieu. Ils sont sortis de Dieu. Pour faire quoi? Pour exercer un ministère. Apocalypse 5, 6, lire, nous voyons que ces sept esprits sont les yeux de l'agneau. Or, cela devrait avoir une signification. Parce que vous voyez avec vos yeux. Les yeux saisissent ce qui se passe autour de vous et renvoient un message au cerveau qui est le centre de l'intelligence. Par conséquent, ces sept esprits sont le canal que Dieu utilise pendant une certaine période de temps pour apporter la réaction à l'agneau. Maintenant, revenons au chapitre 4 et continuons. La brèche 17.03.963-288. Et je vois, vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept têtes. Ou sept cornes, je veux dire, et sept yeux, on vient juste de l'expliquer, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. 289. Vous voyez? Cet âge de l'Église, les sept messagers qui ont tenu ce feu allumé. Voyez? Apocalypse 4, 6, lire, Apocalypse chapitre 4. Troisième partie, le trône de miséricorde, 61-0108-155 bien. Entrons dans le sujet et lisons ce verset 6. Cette lampe est devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et alentour du trône, quatre animaux pleins d'yeux devant et derrière. 156 eaux. Considérez cela. Quatre animaux vivants, plein d'yeux devant et derrière. Non. Attendez. Et devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et alentour du trône, quatre animaux pleins d'yeux devant et derrière. 157 Voyons cette mer de verre. Nous avons besoin d'étudier quelque chose pendant un moment. On trouve le symbole de la mer de verre dans l'ancien temple. En effet, Moïse avait été chargé par Dieu de bâtir le temple sur cette terre selon le modèle qu'il avait vu dans le ciel. Chacun sait cela. Bien. 158 Faisons un petit dessin. Ici, c'est Esther l'arche de l'Ancien Testament. Ensuite vient ce qu'on appelait le lieu très saint. Puis venait l'autel, qu'on appelait lieu saint. Et juste là devant était placé ce qu'on appelait la mer des reins. Autrement dit, c'était un lieu où les sacrifices étaient lavés avant d'être reçus à l'autel. À l'autel des reins où le sacrifice était consommé. 159 Maintenant, nous allons voir quelle était la place de ces choses. Cette mer de verre était donc devant le trône et devant le lieu saint. Rappelez-vous que les sept lampes d'or se trouvent ici, comme ceci, et que leur lumière se reflète dans un bassin. Vous voyez, c'est ainsi que se reflète vers l'extérieur la lumière qui vient du lieu saint. Je voudrais vous montrer encore quelque chose que j'ai dessiné, vous voyez. Ceci était appelé la mer des reins. Elle n'est pas tout à fait aussi grande, mais elle était posée à peu près à cet endroit dans le temple. Elle était disposée à peu près comme ceci, la mer des reins était une cuve faite des reins où les sacrifices étaient lavés. Avant que les sacrifices soient consumés ou acceptés, ils devaient être lavés. 160 eaux. On pourrait faire toute une prédication là-dessus. Cela vient juste de me frapper, laver. Avant qu'un sacrifice soit reçu par Dieu, il devait d'abord être lavé. Comment cela? Non par une émotion, mais lavé par la parole. Nous pourrions revenir à cette prédication que j'avais faite sur les eaux de séparation, la génisse rousse, cette eau que l'on devait garder et dont on faisait une eau de séparation. Et avant que nous puissions venir à Dieu avec une vraie foi, nous devons d'abord passer par les eaux de séparation. Certainement. Par quoi devez-vous venir? Par la parole. 161 Voyons si je puis vous parler de cela de manière que chacun comprenne bien. Revêtez maintenant votre pensée spirituelle. Ôtez votre casque de guerre. Revêtez votre pensée spirituelle, parce que voici quelque chose. Il fallait que ce soit d'abord lavé avant que cela puisse être reçu à l'autel. Il fallait d'abord que ce soit lavé par les eaux de séparation. 162 Maintenant lisons rapidement Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Il parle de l'Église. 163 Remontons encore un peu plus haut, au verset 21. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. 164 Et étant soumis. Assemblée. Soumets-toi à ton pasteur. Pasteur. Soumets-toi à ton assemblée. Si une petite coterie s'élève, n'ayez soyez ni d'un côté ni de l'autre, mais soumettez-vous à l'assemblée tout entière. Assemblée. Plutôt que de commencer à faire de petites coteries, soumets-toi à ton pasteur dans la crainte de Dieu. Vous comprenez? Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme. 165 Combien savent cela? Vous les femmes? C'est la pure vérité. La Bible a dit cela au commencement. Et s'estère toujours pareil. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Parce que le mari estère le chef de la femme, comme aussi le Christ estère le chef de l'assemblée, lui, le sauveur du corps. Ainsi on est stérile du mari. 166 Vous devriez savoir cela, vous qui êtes mariés, vous les adultes, comme d'ailleurs vous aussi, les enfants qui êtes assez âgés pour connaître les choses de la vie. Bien. Mais, comme l'assemblée estère soumise au Christ, ainsi, que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes. Comme aussi le Christ aimait l'assemblée et s'estère livré lui-même pour elle, Néhémie l'écrasez pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne d'être un mari. S'estère vrai. Afin qu'il la sanctifiât. 167 Écoutez, s'estère cela. Comprenez bien cela. Afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par l'assemblée répond, la parole. ND accent aigu 168 Ainsi, tout adorateur qui obtient l'accès s'y doit venir par la parole. Apocalypse 4, 6-9 Lire, questions et réponses sur les Hébreux numéro 3, 6 octobre 1957 683 Maintenant, ces quatre êtres vivants de l'Apocalypse, si vous les observez, chaque endroit, vous, lecteur de la Bible, et l'homme qui va suivre cette bande enregistrée Esther, aussi lecteur de la Bible. Ces quatre êtres vivants, ils avaient quatre faces, l'un avait la face d'un homme, l'autre avait la face d'un veau, et l'autre avait la face d'un aigle, et l'autre avait la face d'un lion, et Néhémie recula jamais. Néhémie pouvait pas marcher à reculons. 684 Combien se souviennent du vieux livre de l'Apocalypse? Lorsqu'on enseignait cela il y a des années, lorsque j'avais consacré si environ 2 ans au livre de l'Apocalypse, beaucoup d'anciens s'en souviennent. 685 Écoutez, Néhémie pouvait pas reculer, parce que peu importe le sens dans lequel ils allaient, ils avançaient. S'ils allaient dans tel sens, ils y allaient comme un homme. S'ils allaient dans tel sens, ils y allaient comme un lion. S'ils allaient dans tel sens, ils y allaient comme un aigle. S'ils allaient dans tel sens, ils y allaient comme un veau. Vous voyez, Néhémie pouvait pas reculer, ils avançaient toujours. 686 Eh bien, ces quatre êtres vivants. Maintenant, pour vite prendre ceci, car je n'aimerais pas rester trop longtemps là-dessus. Mais les quatre êtres vivants. Dans la Bible, une bête représente une puissance. Et si vous remarquez bien, ces quatre êtres vivants n'étaient pas là dans le lac ou dans la mer, quelque part, en train de monter, mais ils étaient au trône de Dieu, et ils adoraient Dieu. Ces quatre êtres vivants signifient les quatre puissances qui sont sorties de la terre, et ces quatre puissances étaient les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'un n'est mis contredit pas l'autre. 687 L'un d'eux. Les. Quand l'évangile sort en tant que lion, il estère ferme, il estère hardi, l'évangile estère brave comme un lion, et il estère un roi comme un lion. S'il va du côté de la face de l'homme, il estère perspicace, habile comme un homme. S'il va du côté de la face de l'aigle, il a des ailes rapides pour les hauteurs les plus élevées. Cela. Comprenez-vous ce que je veux dire? S'il va en tant que veau, il estère le cheval de labour qui peut tirer, le veau de labour qui tire le fardeau de l'évangile. Les quatre êtres vivants étaient les quatre puissances, qui étaient Matthieu, Marc, Luc et Jean, les quatre évangiles qui retentissent dans la présence de Dieu, c'était 688 si vous l'avez bien remarqué, Ils avaient des yeux devant et derrière. Ils. Partout où cela allait, ça émettait de la lumière. Ils voyaient partout où ils allaient. Et c'était à la puissance des évangiles au fur et à mesure qu'il sort. Cela peut. Il a la perspicacité de l'homme. Il a la rapidité de l'aigle. Il a la puissance. La puissance d'attraction. Le porte-fardeau comme un veau. Il a la fermeté et la hardiesse du lion. Voyez. Ce sont les quatre évangiles qui sont les quatre puissances de l'Apocalypse. Chapitre 4. Très bien. Maintenant la prochaine. Cinquième sceau. Le 22 mars 1963 Jeffersonville, in USA, 75. Et quand nous avons démontré précisément par les évangiles quand on entrait dans l'arche, il veillait sur l'arche, sur l'alliance. Et puis nous avons vu que l'alliance de la nouvelle église, sa représentation sur la terre, c'était le Saint-Esprit. Le sang a fait revenir sur nous le Saint-Esprit. Et les quatre êtres représentaient, ils étaient comme les 12 tribus d'Israël, qui montaient la garde. Et, en étudiant la nature de chacun d'eux, on a vu que leur nature même correspondait très précisément à chacun des quatre évangiles. Ça correspondait parfaitement. L'un parlait du lion, l'autre du bœuf, et l'autre, les quatre évangiles. Voilà. Les quatre évangiles sont la protection du Saint-Esprit. Amen. Apocalypse 4, 10-11, lire. Apocalypse au chapitre 4 numéro 2, les 24 anciens, 1er janvier 1961 Jeffersonville, in, USA BB 07674592. Que signifie le terme ancien? J'ai noté ici toutes sortes de définitions que nous allons examiner très rapidement. Ancien signifie, chef de la ville, chef de la tribu. Un ancien, c'est le chef de quelque chose. Par exemple, frère Neville Esther, un ancien de cette église-ci. Qu'est-ce ce qu'il fait? Il Esther la tête de ce corps local. Le maire de la ville Esther l'ancien de la ville. Vous souvenez-vous des anciens de la ville dans les temps bibliques? L'ancien Esther la tête de la ville ou le chef de la tribu. 293 combien était-il? 24. N'est-ce ce pas? Et qui sont-ils donc? Ce sont les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël, les 12 patriarches. Matthieu 19h27 Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Luc 22h24 Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? 25 Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. 26 Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. 27 Car quel est-il le plus grand? Celui qui est à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. 28 Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, 29 sesterces. Pourquoi je dispose du royaume en votre faveur? Comme mon père en a disposé en ma faveur. 30 Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Apocalypse 5, 1-6. Lire, remarquez que cet agneau vient du trône. Il n'estère pas encore sur le trône. Mais il vient du milieu ou de la présence du trône. Il vient du milieu des 4 évangiles. Maintenant, voyons ce qu'il fait. Apocalypse 5, 7. Lire, remarquez qu'il y a quelqu'un qui estère sur le trône. Mais l'agneau n'estère cependant pas sur ce trône. Mais lui, l'agneau, prend ce livre qui n'estère pas ouvert, de la main de celui-ci qui estère sur le trône. Celui-là, s'estère Dieu lui-même. L'agneau qui estère Jésus, le Fils de Dieu, prend le livre scellé, de la main du Père qui estère Dieu, et il l'ouvre. Jean 1h29 le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Et bien sûr, chaque chrétien sait que Jésus estère l'agneau de Dieu qui a été immolé avant que le monde même ait commencé. D'après Apocalypse au chapitre 13. Car Jésus a dit « Je suis venu dans le monde dans ce but. » Les Apocalypse 5, 8-13. Lire maintenant. Remarquez que tous ceux qui étaient là en cette heure triomphante savaient qu'il y avait quelqu'un sur le trône et qu'il était indifférent de l'agneau qui était devant le trône. Âmes qui sont maintenant en prison. Les, M1 0.1.963 Jeffersonville. In. USA B 151 Leur nom était dans le livre de vie. Dans ce livre. Et ils devaient être ici. Parce que c'était le dessein de Dieu de les racheter. Leurs noms furent inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. L'agneau fut placé là avec cela pour être immolé. Voici venir l'agneau après qu'il fut immolé. Il est revenu pour faire l'intercession. 152 Observez-le. Il y aura beaucoup d'imitations. Beaucoup d'autres choses. Mais quelqu'un allait vraiment être sauvé. Car il. L'Église était prédestinée à être sans tache. Ni ride. Elle sera là-bas. Et l'agneau mourut dans ce but. Alors. Quand le dernier nom inscrit dans ce livre fut racheté, l'agneau s'avança, prit le livre, et dit, « Je suis celui qui l'a fait. » 153 Les anges, les chérubins, les 24 anciens, les êtres vivants, tous, enlevèrent leur couronne, tombèrent devant le trône et dirent, « Tu es digne. » 154 Jean dit, « Tout dans le ciel et sur la terre m'entendit m'écrier, Amen. » Poussez des cris d'Alléluia et de louange à Dieu. Le cri monta au ciel. Pourquoi? Leur nom était dans ce livre pour être révélé. L'agneau les avait révélés. 155 L'agneau les avait rachetés. Mais Néhémie pouvait pas s'avancer avant que chaque nom soit révélé. Et cela se passait sous le sixième sceau. Avant que le septième soit brisé. Alors. Le. Sans tache. Alors l'agneau vint pour ceux qu'il avait rachetés. Il est revenu pour réclamer ceux qu'il avait rachetés. Apocalypse. Chapitre 5. Numéro 2. 18 juin 1961 Jeffersonville. In. USA. 129 Bon. Très bien. Le verset 6. Déjà une partie du 5. Le vieillard. Dans le verset 5. Avait raison quand il dit, « Voici l'agneau. » Mais quand il regarda, il vit un lion. C'était un lion au lieu d'un agneau. Qu'est-ce que cela voulait dire? Son œuvre de médiateur était terminée. Il allait quitter sa position de médiateur à la fin de l'âge de l'Église, pour devenir le lion de la tribu de Juda. Son œuvre de médiateur était terminée et il devait redevenir un lion. Ce qui représente un juge. Quand il prit le livre de la main. 130 maintenant. Souvenez-vous, Quand un homme partait racheter quelque chose, Néhémie l'oubliait pas. Quand un homme partait racheter quelque chose, il prenait un homme avec lui et allait à la porte de la ville. Là, il rencontrait les anciens et annonçait le but de sa venue. C'est-à-dire ce qu'il faisait. Il allait à la porte et disait, « Je suis ici pour faire valoir mon droit de rachat en tant que parent envers cet héritage, et je suis ici pour me présenter devant les anciens de cette ville. » Voyez-vous? Apocalypse 5, 14 égale plus grand que 6, 1, lire. Maintenant, nous le voyons ouvrir les seaux. Maintenant, nous n'avons pas de temps d'entrer dans ceci, ce matin, mais quand le sixième seau a été ouvert, nous voyons le commencement des douleurs de la terre et les malheurs qui doivent tomber sur la terre, et le commencement des jugements sur la terre. Et pendant ce temps, le septième seau est ouvert pour sceller les élus à l'intérieur, les préservant des jugements. Et au chapitre 8, nous voyons qu'après que le septième seau soit ouvert, alors les fléaux commencent et les sept dernières coupes, qui représentent la colère de Dieu, sont versées sur la terre. Apocalypse 10, 1-7. Lire maintenant. Qui est-ce celui qui est-ce descendu? Pour comprendre comment ils sont deux, et chacun ayant son propre trône, référons-nous de nouveau à l'Écriture. Dans Apocalypse 5, 6-7. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ainsi, qu'advint-il alors? Qu'advint-il de ce livre, qui est-il maintenant ouvert? Dans Apocalypse 10, 1-3 et 7, je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. La première chose que j'aimerais souligner ici est que ce mystère de Dieu sera achevé quand cette scène se déroulera. En d'autres termes, avant que cette scène Néhémie se passe, Dieu et la divinité continueront à être un mystère. Mais, une fois que ça se déroule, le mystère prend fin à ce moment-là. Deuxièmement, cette scène commence avec la descente de cet ange puissant que frère Branham a appelé l'ange de l'Alliance, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Brèche PG 74, français PP 41, il dit, et, une fois que les sceaux sont brisés, Apocalypse 5, et que le mystère est révélé, l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Troisièmement, vous remarquerez qu'il vient enveloppé d'une nuée et qu'il a l'arc-en-ciel sur sa tête. Dans la revue Life, nous avons une photo de cette nuée qui a formé sa perruque, laquelle fait partie de son habillement, et si vous tenez cette photo devant une lampe, vous verrez un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, parce qu'il y a la photo d'un arc-en-ciel au verso de la page et grâce à la lumière, nous pouvons voir la révélation, l'arc-en-ciel. Une perruque est un ornement de la tête, qui fait pointer la tête du doigt, ou qui crée l'attraction vers la tête. Ça représente aussi un juge, si c'est une perruque blanche. Nous voyons également que son visage était tellement brillant, qu'il ressemblait exactement au soleil lui-même. et ses pieds étaient comme la colonne de feu. Quatrièmement, il descend avec un livre ouvert. Et puis il criait d'une voix forte comme rugit un lion. Et cinquièmement, nous découvrons que ça se produit au moment où le septième ange est ici sur la terre. Maintenant, examinons ces cinq points. La scène commence par une descente. Si Jésus a pris le livre et qu'ensuite il s'est assis, qui est donc descendu? Frère Branham a dit dans le premier saut 63-0318-271 maintenant. Remarquez, le Saint-Esprit est la révélation et Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ sous une autre forme. C'est vrai. Remarquez, c'est l'agneau qui a ouvert le livre, et l'agneau, c'est Christ. Et on n'y revoit plus Christ, à partir de là, mais on le revoit, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, alors qu'il arrive sur un cheval blanc. Maintenant, gardez ceci à l'esprit parce que frère Branham a dit qu'on n'y revoit plus l'agneau jusqu'à Apocalypse 19. Encore une fois, nous trouvons à la PG 25, page 1 des âmes qui sont en prison 63-1110 mètres, il a dit, et, Jean regarda pour voir un lion, et que trouva-t-il? Un agneau, et c'était un agneau ensanglanté. Un agneau qui avait été immolé. Depuis quand? Depuis la fondation du monde. L'agneau s'avança, alla jusqu'à celui qui avait le livre dans sa main droite, et il prit le livre. Il monta sur le trône et s'assit. C'était ça. C'était terminé. Quand? Quand les sceaux avaient été révélés. Et encore une fois au PP 34 de qui dites-vous que c'était? Jean, lorsqu'il regarda pour voir un lion, il vit un agneau qui avait été immolé. Un agneau ensanglanté s'avança et prit le livre. Il monta sur un trône et s'assit. Ainsi, nous voyons ici que l'agneau prit le livre chapitre 5. Il ouvrit le livre et ensuite, il alla et monta et s'assit sur le trône de son père. Maintenant, souvenez-vous, si vous n'y voyez plus l'agneau, qui est le corps, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 19. Parce qu'il est sur le trône. De ce fait, qui est descendu dans Apocalypse 10? Je crois que c'est la même personne que nous voyons dans I Thessaloniciens 4:15-18 qui nous dit que le Seigneur lui-même descendra avec un cri au sujet duquel frère Branham a dit. Le cri est un message qui est proclamé. Le cri, un messager qui prépare un peuple. Quel Seigneur est-il donc descendu? Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Ainsi donc, lequel est-il descendu? De qui parle-t-on ici? Le Père ou le Fils? La réponse est au verset 14. I Thessaloniciens 4:14 croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Maintenant, ce verset nous dit-il que Dieu ramènera avec Jésus ou dit-il que Dieu ramènera avec lui-même? Souvenez-vous, dans Apocalypse au chapitre 10, il nous est dit que cet ange puissant que frère Branham a appelé Christ sous forme du Saint-Esprit descend. Remarquez qu'il vient avec une voix forte qui est un cri. Et cette voix forte rugit comme un lion. Nous trouvons dans le livre d'Émos que c'est la voix de Dieu lui-même. Émos 3:7-8, car le Seigneur, l'Éternel, n'y fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui n'y sera effrayé, le Seigneur, l'Éternel, parle, qui n'y prophétiserait. Nous voyons donc l'Écriture nous dire que c'est la voix de Dieu qui sort dans un cri avec une forte voix. Et cette forte voix qui se fait entendre comme le rugissement d'un lion, qui effraie tous ceux qui l'entendent. Mais c'est aussi une voix prophétique, comme le déclare ici le livre d'Émos. Ainsi jusque-là, nous devons déjà comprendre que c'est Dieu lui-même, et non pas le Fils de Dieu qui vient à ce moment-ci, pour révéler le mystère de lui-même. C'est là que nombreux ont failli dans ce message. Ils n'aimi savent pas qui est descendu. Et c'est parce qu'ils n'aimi, comprennent pas la divinité. Si vous leur demandez qui est descendu, ils vous diront que c'est l'agneau. Mais l'agneau est sur le trône jusqu'à ce qu'on le revoie dans Apocalypse au chapitre 19. Qui est donc descendu? La réponse, vous la trouverez également dans Éphésiens chapitre 1. C'est le Père de gloire. Apocalypse 21, ah puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. 3 Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. 4 Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort n'y sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5 Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. 6 Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 7 Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. 8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, 9 Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. 11 Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. 12 Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, 13 à l'orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'occident 3 portes. 14 La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21h18 La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. 19 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, 20 Le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. 21 Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. 22 Je n'ai mis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. 23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau Esther son flambeau. Apocalypse 21, 10-27 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, 13. À l'orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'occident 3 portes. 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. 16. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 17. Il mesura la muraille, et trouvait 144 coudées. Mesure d'homme, qui était celle de l'ange. 18. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, 20. Le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. 22. Je n'ai mis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant esterre son temple, ainsi que l'agneau. 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau esterre son flambeau. 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. 25. Ces portes n'émis se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. 26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Les 12 pierres dans le pectoral de jugement, Exode 28, 17. Tu en chasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. 18. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. 19. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. 24e rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. 21. Il y en aura 12. D'après les noms des fils d'Israël, elles sont gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Moins 22. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. 23. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. 24. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. 25. Et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons de monture placés sur les épaulettes de l'éphod. 26. Tu feras encore 2 anneaux d'or, que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. 27. Et tu feras 2 autres anneaux d'or, que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. 28. On attachera le pectoral par ses anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il n'ait mis puisse pas se séparer de l'éphod. 29. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, Il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Moins 30 Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Osaïe 14h12 Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. 13 Tu dis en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. 14 Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. 15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. 16 Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement, Esther cela cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, 17 Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et Néhémie relâchait point ses prisonniers. Ézéchiel 28, 12 Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu m'attelles soit à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. 13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert, embelli, de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. 14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. 16 Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. 17 Ton cœur s'était élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. 18 Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. 19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu n'es mis sera plus à jamais. Le pectoral Ilurim, lumière, Thummim, perfection ou intégrité. 1. Sardoine. Topaz, escarboucle, 2, émeraude, saphir, diamant, 3, opale, agate, améthyste, 4, chrysolite, béryl, onyx, jaspe, la parure de Lucifer, 1, sardoine, translucide rouge marron, topaz, quartz, incolore, diamant le plus dur, pierre de l'arc-en-ciel cette couleur, 4, chrysolite, onyx, jaspe, 2, saphir, bleu, clair, dur, émeraude, escarboucle, un grenat rouge foncé, sar, numéro 1. Une variété de chalcédoine clair ou translucide, allant d'un rouge orange profond à un rouge brunâtre. Appelé aussi sardoine. Anglais moyen sarde. Du vieux français. Du latin sarda. Peut-être du mot sarordinal masculin et sardi. une ancienne ville d'Asie mineure de l'Ouest. Tout point passe, T1 demi, PO carré Z, numéro 1. A. Un minerai de silicate d'aluminium. Incolore. Bleu. Jaune. Brun. Ou rose. Souvent trouvé en association avec les rocs graniteux et estimé comme une pierre précieuse. Surtout les variétés brunes et roses. B. N'importe laquelle de plusieurs pierres précieuses jaunes. Surtout une variété jaune de saphir ou de corindon. 2. Une variété jaune claire de quartz. 10.1.man, des ordinales masculins. M. ND. Des ordinales masculins M. ND, numéro 1. Une forme cristalline de carbone extrêmement dure. Très réfringente qui ester habituellement incolore et qui ester utilisée comme une pierre précieuse et dans les abrasifs, dans les instruments tranchants et dans les autres applications. 2. Une figure à quatre côtés égaux qui forme deux angles obtus intérieurs et deux angles aigus intérieurs. Un losange. Ber.il ou chrysolite, bémuer. L, numéro 1. Un minerai vitreux allant d'une couleur transparente à une couleur translucide. Essentiellement le silicate du beryllium d'aluminium. Bo3Al2C6O18. Apparaissant dans les prismes hexagonaux et constituant la source principale de beryllium. Les variétés transparentes blanches, vertes, bleues, jaunes ou roses sont évaluées comme pierres précieuses. Anglais moyen. Du vieux français, du latin brillus, du grec brûlo, du mot brûlon, de pracri verulia, de V barre verticale interrompue riapali peut-être apparente à 6 barre verticale interrompue à, de V barre verticale interrompue iruor, de tamoul, blanchir, devenir pâle beryl.line, tiret. Elle exposant N, elle ordinal masculin N, adj. On point X, un carré N, exposant en KS, numéro 1. Une chalcédoine qui se trouve dans les bandes de différentes couleurs et qui ester employée comme pierre précieuse, particulièrement dans les camées et dans les intailles. Anglais moyen onyx. Du vieux français. Du latin onyx. Du grec onyx, ongle. Onyx. Voir nog dans les racines indo-européennes. Ja.pe, geocarés, p. r, numéro 1. Une variété opaque de cryptocristalline de quartz qui peut être rouge, jaune, ou brun. Anglais moyen jaspe. De l'anglo-norman. Du latin jaspi-aspide. Du grec jaspi du perseiasme. De l'arabe jasbe. De l'hébreu ispé. De l'acadien aspe. Saphir SO carré F, ordinal masculin R, numéro 1. Une variété claire et dure de corindon utilisée comme pierre précieusement qui ester habituellement bleu mais peut-être de n'importe quelle couleur hormis le rouge. 2. Une pierre précieuse de corindon. 3. Couleur, la couleur bleue d'une pierre de saphir. Adjectif. 1. Fait de ou ressemblant à une gemme de saphir. 2. Couleur ayant la couleur d'un bleu saphir. M.Aude, R. LD. M. R. LD de mu M. De mu, numéro 1. Une variété transparente et brillante de beryl allant de la couleur verte à la couleur verte herbe. Utilisée comme une pierre précieuse. 2. Couleur vert jaunâtre foncé. Adjectif. Couleur 1. D'un vert jaunâtre fort. Escarboucle, car.ba.clé en anglais. Furoncle, car, B3KNG, K. L, numéro 1. Une infection bactérienne douloureuse localisée sur la peau et dans le tissu sous-cutané qui a habituellement plusieurs ouvertures par lesquelles le puester est déchargé. 2. A. Un grenat rouge foncé. Sans face et convexe. B. Archaïque une pierre précieuse rouge. La troisième rangée qui a été ôtée du pectoral de Lucifer. Remarquez la troisième rangée. 3. Sester la perfection. Et Sester également le nombre de Dieu. La septième cuillère pâle en anglalig.ur, elle exposant un GY plus petit que R, numéro 1. Une pierre précieuse de l'Israël antique. Le Gerouzem. En hébreu, c'est Esther, un mot qui est Esther étranger à l'hébreu et qui a été emprunté par Moïse et qui a été utilisé dans cette langue. Dans notre traduction moderne, nous l'appellerions Jacinthe ou Zircon Théophrastu, un auteur aux environs de 372 à 287 avant Jésus-Christ, décrit cela comme étant une pierre servant à graver des sceaux, et qui a une puissance attrayante comme l'ambre, elle a été employée comme pointe de graveur de sceaux, et cela Esther difficile à polir, le jacinthe étant ambre de couleur, et Sester une couleur ambre. Comme Théphrastu l'a précisé, Sester une pierre a une puissance attrayante comme l'ambre. Elle a l'attraction électrique de l'ambre. Elle a été souvent utilisée pour des sceaux. La huitième pierre est Gatag.at, au carré G, exposant numéro 1. Une variété de chalcédoine fine et fibreuse avec des bandes colorées ou une marbrure irrégulière. Égal Jbuvu Shebo. Encore une fois le mot hébreu Esther, Shebo qui est Esther, un mot étranger à la langue hébraïque qui a été adopté dans la langue par Moïse. Sester une variété de chalcédoine. Sester une belle pierre avec des bandes de couleurs qui la traversent. Il y a beaucoup de légendes qui entourent l'agate, parce que c'était parmi les premières pierres à être considérées précieuses parmi les hommes. D'après légende, l'agate avait une qualité la concernant, qui rendait le porteur plus agréable et plus persuasif, et qui lui donnait faveur devant Dieu. Ça lui donnait aussi la force et l'aidait à se reposer. Les Sumériens ont utilisé des agates comme tête des haches, dont l'une se trouve dans le musée américain d'histoire naturelle à New York. Sester une pierre rouge avec deux bandes blanches et noires qui la traversent. La neuvième pierre est mos.o.istamétiste au carré M. Tache exposant un saint numéro 1. Une forme de quartz transparent pourpre ou violette utilisée comme une gemme. 2. Une variété pourpre de corindon utilisée comme gemme. 3. Couleur, allant du pourpre modéré à un pourpre rougeâtre grisâtre. Anglais moyen amathyste. Du vieux français. Du latin amathystu. Du grec démétusto a égale, pas. Voir à astérisque métusto, enivré, de métusquin, enivré. Devait-on être ivre, à partir de la croyance selon laquelle c'était un remède pour l'ivresse, devint de Mathieu ou Aklama. Le mot amethysto veut dire pas ivre. Sester de couleur pourpre. L'historien Pliny a dit que les Grecs ont appelé cela amethysto parce que ça ressemble au raisin. Les légendes relatives à cette pierre étaient que ceux qui portaient pensaient que ça accélérait l'intelligence de celui qui la portait. Et ça le protégeait contre la maladie et contre le mal acquis parce que la dernière partie du mot hébraïque acclama Esther, shalom qui veut dire être sain et fort ou être restauré à la bonne santé. Remarquez la première pierre dans la rangée manquante, concerne la fabrication des sceaux. Donc nous pouvons dire que cela a affaire avec les sceaux. Et la deuxième pierre qui manque a affaire avec la miséricorde de Dieu et son attribut principal. C'est Esther du repos. Ou la relaxation. Maintenant, considérez que la première se rapporte au sceau et la seconde se rapporte à la relaxation. Et maintenant, la troisième pierre qui monte dans la troisième rangée doit avoir affaire avec le raisin, qui représente la stimulation de la révélation. Septième sceau. Le, E24.03.963 Jeffersonville. In. USA 249 maintenant. Pourquoi? Prouvons-le. Pourquoi? Sester là le secret que personne n'émi connaît. Il a été défendu à Jean d'écrire ce qu'il en était. D'écrire Néhémie serait-ce Néhémie, serait-ce qu'un symbole là-dessus? Pourquoi? Voilà pourquoi il n'y avait aucun actif. Dans activité dans le ciel, cela pourrait laisser échapper le secret. Le voyez-vous maintenant? L'assemblée dit, Amen. Tirène des accents aigus 256 Esther quelque chose de tellement important. Il faut que ce soit inclus. Parce que c'est Esther quelque chose qui doit arriver. Mais quand les sept tonnerres. 251 maintenant remarqué. Quand les sept anges se sont avancés pour sonner de leur trompette, il y a eu un seul tonnerre. Frère Branham donne un coup sur la chair. Tirène des accents aigus. Quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. Quand il n'y aura plus de temps, à la dernière trompette, un seul tonnerre. 252 mais ici, il y a sept tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce nombre parfait. Sept tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, pas faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coup sur coup. Frère Branham a donné 7 coups sur la chair. Tirène des accents aigus, alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux Néhémie peuvent pas savoir ce qu'il en est Esther, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important, que le secret n'a pas été divulgué aux anges. 253 or. Pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il n'aimait c'est pas. Bon. Il peut bien interpréter tout ce qu'il veut, et imiter tous les genres de dons, j'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais Néhémie peut pas savoir ceci. Ce n'est Esther même pas écrit dans la parole. C'est Esther un secret complet. 254 les anges. Tous Esther tuent. S'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tus. C'est Esther tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tous Esther arrêté. 255 7. Le nombre parfait de Dieu. 7. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. Tirène des accents aigus. L'un à la suite de l'autre. Simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble. Coup sur coup. Comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez. À ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, Néhémie l'écrit pas. 256 Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est Esther? C'est Esther la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez? Voyez? Il Néhémie le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. 257 mais il nous a dit que quand nous allions commencer à voir ces signes apparaître. En retirez-vous quelque chose? Là? L'assemblée dit, Amen. Tirène des accents aigus. Très bien. Remarquez. Nous commençons à voir ces signes apparaître. Voyez? Si Satan pouvait s'en emparer. 258 si vous voulez que quelque chose arrive. Or, pour ceci, vous devrez me croire sur parole. Si je projette de faire quelque chose, je me garde bien d'en parler à qui que ce soit. Non pas parce que la personne en parlerait, mais parce que Satan l'entendrait. Voyez? Il n'est aimé peut pas le savoir. C'est Esther dans mon cœur. Là. Et Dieu l'a scellé du Saint-Esprit. Par conséquent, Esther entre moi et Dieu. Voyez? Il n'en sait rien. Jusqu'au moment où vous le dites. Et alors il l'entend. Et j'ai essayé. Je dis à des gens que je veux faire telle et telle chose. Et regardez le diable qui cherche par tous les moyens à me devancer. Vous voyez? À me couper l'herbe sous le pied. Mais si Dieu me donne la révélation, et que je n'en parle pas du tout, là, c'est différent. 259 Souvenez-vous, Satan va essayer d'imiter. Il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela chez l'Antichrist. 260 Mais voici une chose qu'il n'a émis peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci, vous voyez, parce qu'il n'a émis c'est pas ce que c'est Esther. Il n'y a aucun moyen pour lui de savoir. C'est Esther le troisième pull, attirance-n.d.t. Il n'a émis c'est absolument rien là-dessus. Voyez? Il n'a émis le comprend pas. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, juillet 2003. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.com.